bien, bonjour tout le monde. Donc cet après-midi, voilà, donc c'est quelque chose que j'ai pas mal présenté dans un cours qui s'appelle Plurilinguisme et identité, que je ne donne plus, donc Plurilinguisme et école, que je ne donne plus d'ailleurs. Mais voilà, les données sont toujours là, et puis ce que j'avais préparé pour ce cours, eh bien, Patricia m'a demandé de le reprendre et de l'adapter pour cette journée destinée à vous qui êtes des formateurs de formateurs. Alors, toutes ces séquences qu'on va voir tournent autour d'une seule apprenante, une seule élève qui s'appelle Sandra, qui est portugaise, qui est dans une classe d'accueil en Suisse romande, à La Chaux-de-Fonds, qui est une élève très motivée, qui a qu'une envie, c'est de sortir de la classe d'accueil pour pouvoir intégrer une classe normale. Donc, il faut bien avoir ça en tête, hein. C'est quelqu'un qui a envie d'apprendre et qui met en fait à profit un peu toutes les situations pour pouvoir développer le français. Et en même temps, c'est un peu la même méthodologie que celle de Patricia pour sa thèse. C'est une élève qui nous a beaucoup aidé pour récolter les données, car elle a été d'accord de s'enregistrer elle-même dans diverses situations de sa vie qu'elle jugeait pertinentes pour son utilisation du français. Donc elle enregistre aussi un petit peu pour nous, hein, qu'elle a collaboré. C'est-à-dire que quand elle fait des enregistrements, elle se dit bien qu'on va écouter et que d'une certaine manière, elle veut montrer qu'elle parle bien le français et qu'elle se débrouille bien en français. Mais ça, c'est pas grave, c'est pas un biais, je dirais, parce que toutes les séquences que j'ai choisies, elles montrent en fait différentes situations dans lesquelles il y a une configuration où son identité se révèle différente, et où le statut du français est aussi différent. Et en fait, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est essayer de voir si vous comprenez pourquoi j'ai sélectionné ces séquences 1, séquence 2, séquence 3. Si je l'ai fait, c'est qu'il y a des choses qui m'ont frappé dans ces séquences. Et puis, j'aimerais voir si vous les voyez aussi, donc d'une certaine manière, s'il y a une certaine intersubjectivité dans qu'est-ce qui est important du point de vue de l'acquisition. Là, je parle vraiment acquisition de la langue, pas tellement didactique, pas tellement programme, c'est vraiment du point de vue de l'acquisition. Quels sont ces observables, soit au niveau de la forme des mots, soit au niveau des séquences interactives, donc des activités qui sont déployées par les interactants, qu'est-ce qui est intéressant du point de vue d'une théorie de l'acquisition du français ? À la fois comme langue, qui est une langue objet d'apprentissage, parce que ça fait partie de cette discipline scolaire, mais aussi comme langue de la socialisation, parce que c'est une langue qui permet d'interagir avec les autres copains, avec les autres élèves dans la classe d'accueil, mais aussi comme on va le voir à la maison, dans la fratrie, etc. Voilà, alors je ne vais pas plus loin avec l'introduction et on écoute tout de suite la première séquence. Donc, il s'agit de la classe de français, cette classe d'accueil qui, il y a à peu près 15 élèves de langues très différentes. Et dans cette séquence-là, donc il y a toujours Sandra, hein, qui est toujours quelque part. Elle n'a pas toujours le rôle principal, mais elle est toujours quelque part. Et là, la séquence, elle est surtout centrée sur son amie Liliana, qui est aussi portugaise. Elles sont toujours l'une à côté de l'autre dans la classe d'accueil. Et voilà ce que le professeur leur propose comme activité. On n'est pas au début de la leçon, on est à peu près au premier tiers de la leçon de français.
Oui. Bien. Je commence avec Sunda. Naturellement, si Sunabi ouvre la fenêtre, ouvre la valise, hein, l'autre doit dire le contraire.
Il est fermé.
D'accord?
Oui.
C'est ça le mieux. Sunabi, comment?
La fenêtre.
À quelle vitesse?
La valise.
Non, la fenêtre.
Ouvre la valise.
Ouvre
la
valise. Change maintenant. Change le verbe, toi.
Voilà, il manque la transcription un petit bout, hein.
La boîte.
Elle a oublié la boîte.
Oui, oui.
Ouais.
Bon.
Voilà, alors je ne sais pas si vous voyez pourquoi j'ai choisi cette séquence. Qu'est-ce qui vous paraît exemplaire dans cette séquence-là? Enfin, moi, ce qui m'a semblé intéressant, c'est que j'ai l'impression que cette activité n'a pas le même sens pour les élèves que pour le prof. Ce qui me fait dire ça, c'est que le prof, à un moment donné, dit « change le verbe ». Et que visiblement, je pense qu'il y a une grande partie de la classe à qui ça ne veut rien dire du tout, change le verbe. Et puis que tout d'un coup, il y a Sandra, justement, qui est très attentive, qui dit elle a oublié la boîte. Donc en fait, elle suit parfaitement l'exercice sur toute sa longueur. Donc elle est en train de lire. Et le prof, finalement, ce qui l'intéresse, lui, c'est la construction syntaxique. Ouvre, ferme, etc. Et donc le prof, il est plutôt centré sur une histoire de conformité syntaxique de l'énoncé, alors que Sandra, elle est faisons tout, et à mon avis, peut-être plus centrée sur le vocabulaire, sur le lexique, que sur la structure syntaxique. Donc il me semble là qu'il y a quelque chose... cet exercice, cette tâche qui est quand même assez typique des classes d'accueil, enfin si vous avez enseigné en classe d'accueil, alors bon, peut-être que vous trouvez que ce sont des choses un peu démodées didactiquement parlant, mais je suis persuadée que ça se fait encore beaucoup. Il s'agit, on peut dire que c'est un exercice typique des méthodes structuro-globales où on exerce des structures, et voilà, je pense que ça se fait encore. Il n'y a pas de raison de ne pas en faire. Mais ce sens que cette activité a pour le prof, c'est visiblement pas le sens que ça a pour les élèves, même pour les élèves qui suivent. Donc, pour voir ensuite comment en fait cette activité est perçue par les élèves, ben, on va voir la séquence 2, où cette fois Sandra est chez elle. Et puis, elle rejoue d'une certaine manière, elle refait l'exercice avec sa copine Liliana, l'exercice qu'elles ont fait dans la classe d'accueil. Donc, elles font leurs devoirs ensemble. Hein. Alors, voilà ce que ça donne.
C'est tout? Ah, je sais. Tout fait de ouvre, moi je fais de ferme. Ouvre, oui, d'accord. Ouvre la fenêtre. Ferme la fenêtre. Ouvre la valise. Ferme la valise. Ferme le livre. Ouvre le livre. Ouvre le boîte. Ferme la boîte. Ferme le trousse. Ouvre le trousse. Ouvre le stylo. Ferme le stylo. Ouvre la bouche. Ferme la bouche. Ferme la serviette. Ouvre la serviette. Ouvre le parapluie. Ferme le parapluie. Ferme la porte-monnaie. Ouvre le porte-monnaie. Ouvre l'armoire. Ferme l'armoire. Ouvre le cahier. Ferme le cahier. Ferme la porte. Ouvre la porte. Je crois que c'est tout simple.
Voilà, donc on voit que là, on reprend en fait toute la liste de l'exème qui est disponible dans l'exercice, et que donc l'exercice se refait exactement comme il a été fait dans la classe d'accueil. Vous voyez que évidemment, il n'y a pas d'hétérocorrection. Hein, c'est le jeu faire du ouvre, et finalement, ben voilà, l'exercice, c'est d'arriver à automatiser cette structure. Est-ce que c'est une structure, ou est-ce que c'est simplement les élèves qui se disent ben voilà, on peut ouvrir une valise, fermer une valise, ouvrir un porte-monnaie, fermer un porte-monnaie. Donc de nouveau, il me semble que les élèves ne sont pas sur l'idée de structure, mais elles sont sur l'idée au niveau des choses, qu'est-ce qu'on peut ouvrir, qu'est-ce qu'on peut fermer. Et puis, le fait qu'il n'y ait pas d'hétérocorrection, bon, est-ce que ça vous paraît dommageable d'un certain moment? Est-ce que c'est quelque chose finalement, est-ce que vous conseillerez plutôt à vos élèves de ne pas faire ce type de devoir à la maison si tout d'un coup, il n'y a personne qui peut les corriger? Moi, je pense que... donc, c'est ça que je voulais mettre en évidence dans ces deux séquences. C'est la différence de sens qu'une activité scolaire peut avoir pour les enseignants et pour les apprenants. Mais finalement, si le sens n'est pas pareil, c'est peut-être pas très grave, parce que... De toute façon, elle s'exerce. elles exercent peut-être pas les choses qui sont visées par le prof, mais elles s'exercent. Peut-être qu'elles exercent davantage la prononciation, davantage du rythme du français, de la musique, de la prosodie du français, mais elles entraînent quelque chose. Voilà, donc ça c'était la séquence 1 et la séquence 2. La séquence 3, cette fois-ci on est dans une toute autre activité, c'est Sandra et sa petite sœur qui jouent aux cartes. Donc elle a une petite sœur qui a 7 ou 8 ans, et puis il y a une autre partenaire dans ce jeu qu'on n'entend pas beaucoup, c'est X. Donc quand on l'entend intervenir à la ligne 13, sinon c'est Sandra et Nina. Et donc là, on va voir d'une manière beaucoup plus révélatrice l'étendue du répertoire de Sandra en français.
Tu peux couper, hein, c'est une bonne carte.
Et c'est pour moi, mais... Non, mais celle-là, tu vas jouer la
mais
même.
Mais je sais, tu peux jouer la même, hein. Tu peux pas.
Il
jouer.
En a pas.
Si tu veux couper, tu vas couper avec.
Non.
Mais oui, mais
c'est pas.
Regarde, ça fait 11 points. C'est quoi ça fait?
Ouais, 11
points. Ici, ça fait 10 points. Et elle reste avec 21 points.
Mais ça fait rien, c'est bon, je sens.
Mais c'est pas toi, si tu gagnes.
Mais tu ne peux rien dire, hein.
Mais alors, je joue, mais il a déjà joué, tu as gagné. Il a déjà joué, hein. Regarde, si tu veux jouer, si tu veux couper avec ça. Tu coupes avec la même, hein, avec
le même cœur, mais j'ai pas.
Si tu n'as pas, tu coupes, mais maintenant tu as déjà joué. Mais ça fait rien, et gagné. C'est pas toi, parce que il a comme ça, c'est pas la même chose que ça. Hein. Et elle peut jouer le 2, ça, et tu peux couper avec ça, mais tu coupes pas parce que c'est pas la même chose. Hein.
Non, mais il a déjà joué.
Mais oui, tu as gagné. Hein.
Et puis tu n'as pas joué.
Ah oui, c'est à moi, oui. Aussi. Regarde, si je joue ça, tu joues ça, c'est moi qui gagne parce que je ne joue pas la même chose que moi.
Mais j'ai pas cette carte.
Mais tu coupes, ça fait 10 points. Et tu coupes avec un tronçon. Tu as ce moi, mais tu gagnes.
C'est moi qui joue alors.
Tu gagnes avec le point. C'est pas avec les amis. Hein.
Il n'en a pas.
Mais hasard, maintenant, regarde. Tu peux couper les.
Voilà, donc là on voit à quel point finalement elle est quand même à l'aise. À quel point elle est à l'aise dans son en français face à sa petite sœur, hein, où elle a le rôle de grande sœur. Et je pense que comme il y a cette amie qui est là, ça doit être une copine, je sais pas de qui, mais qui, je fais l'hypothèse, doit être suisse et pas portugaise, donc elle ne doit pas parler le portugais. Je pense que c'est pour ça que les deux sœurs parlent qu'en français, mais c'est aussi parce qu'elle enregistre et pour montrer qu'elle parle bien le français, etc. Donc, on voit que l'activité est très prenante, il y a beaucoup d'affect, elles sont très très engagées. Mais si j'ai choisi ce passage-là, c'est qu'on voit que le fait qu'il y ait beaucoup d'affect n'empêche pas qu'il y ait toujours une petite conscience métalinguistique quelque part. Je pense à la ligne 4, quand Sandra hésite sur la prononciation de « point », où elle dit d'abord quelque chose comme « pont ». Et puis, à mi-voix, donc c'est une remarque qui est adressée à X, hein, elle lui demande, c'est comme ça qu'on dit, en gros. Et puis, très vite, elle ajuste sa prononciation, et puis ensuite, la prononciation, elle ne bouge plus, ça reste au point. Donc, on voit que même engagée dans une activité, il y a toujours cette possibilité d'avoir une activité métalinguistique un peu décrochée. Donc, en fait, elle est quand même capable de faire deux choses en même temps. Interagir avec sa petite sœur tout en ayant à l'esprit de donner une forme qui est acceptable au français. Alors maintenant, si on parle de la description de son interlangue, qu'est-ce que vous remarquez dans son interlangue? Si vous deviez donner un diagnostic de son interlangue, qu'est-ce qui est saillant pour vous là-dedans? Il y a une difficulté qui revient assez systématiquement. Est-ce que c'est le marquage du temps? Est-ce que c'est un marquage d'aspect? Mais il y a quelque chose Il y a quelque chose qui cloche quoi, au niveau de la flexion verbale. Hein. Tu déjà joué, ça fait très bizarre. Hein. Là, donc c'est une forme qui est quand même très éloignée des formes standards, enfin des normes usuelles, on va dire, même pas forcément standards. Il y a le fait que le portugais est une langue prodrope, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de mettre les pronoms clitiques sujets. Hein, c'est comme l'italien, c'est comme l'espagnol, on peut laisser tomber les pronoms de conjugaison. Donc, elle les met assez systématiquement. Donc, ce qui pour moi est une trace que son apprentissage du français est déjà bien entamé, vraiment. Quoi. Elle a déjà une interlangue qui est très développée. Mais on voit en 12, justement, où il y a déjà cette forme, tu déjà joué. Après, il y a tout d'un coup le pronom qui est absent. Mais il n'est pas systématiquement absent. Donc on voit bien qu'elle est dans une... Son interlangue se diversifie de bonne manière. Quoi. Elle est bien dans une bonne dynamique d'apprentissage. Maintenant, sur tout ce qui est structure des syntagmes nominaux, tout ça, moi je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à redire. Ils sont usuels. Hein, ils ne s'éloignent pas de manière significative... Des formes usuelles, des syntagmes dans l'environnement langagier. Voilà, donc ce qui m'intéressait de mettre en avant là, c'est le fait de dire qu'on n'apprend pas seulement à l'école, hein, on peut dire que c'est aussi une situation dans laquelle sa conscience métalinguistique, son activité d'apprentissage de la langue est toujours présente, même si c'est un peu en arrière-plan comme ça, mais on voit qu'elle est aussi apprenante. Et je pense que ça, c'est un bon indice du succès de son apprentissage du français. Hein, cette capacité, en fait, à toujours avoir en éveil cette attention à la forme pour développer le répertoire formel. Pour ce qui est du répertoire, je dirais, pragmatique, là, on voit qu'elle se débrouille très, très bien. Hein. En gros, elle n'a pas grand-chose à apprendre dans l'interaction avec une enfant qui est plus petite qu'elle. Donc on voit qu'elle joue très très bien, elle occupe la position haute dans cette interaction et elle l'occupe très très bien. Voilà, donc on repasse à l'école. Et là, alors ça c'est quelque chose qui est spécifique à la Suisse romande. L'apprentissage de l'allemand en Suisse romande est obligatoire parce que c'est la première langue nationale et donc première langue étrangère à apprendre. Donc même quand on est migrant dans une classe d'accueil, on va apprendre de l'allemand. Alors, je vous passe cet extrait 4 qui, à mon sens, montre bien qu'on est dans une classe d'accueil où il y a de nouveau différentes dimensions qui entrent en cause. Et puis, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ces dimensions. On va regarder uniquement sur l'exemplier. C'est bien transcrit, mais le son, il y a déjà qu'il n'y a pas l'image. Donc, au moins, le son donnait des indications. Mais là, ma foi, l'adversité est plus forte. Hein. Donc... Dans cette conversation, donc il s'agit de nouveau d'un exercice typique de classe de langue. Alors il faut faire ce qu'on appelle un Gespräch en allemand. Donc vous avez deux personnages qui se rencontrent et qui se disent bonjour, comment ça va, etc. Et ensuite, après avoir fait cette conversation fictive, la prof demande aux élèves de faire la même conversation comme si elles se tout aussi fictif, donc, mais cette fois, elles doivent faire semblant que c'est elles-mêmes qui se rencontrent. Donc, Liliana et Sandra s'y collent. Guten Tag, bonjour, allô, ich heiße Monika. Donc, la prof lui dit non, ich heiße, wie heißt du? Là, Liliana n'a pas compris qu'elle devait changer les référents du Gespräch et que c'est plus Monika, mais c'est elle-même. Donc, elle lui demande, mais non, ich heiße, donc comment tu t'appelles? Donc là, elle comprend, ich heiße Liliana. Donc, elle essaye de dire, ich bin. Et là, Sandra dit, non. Pourquoi dit-elle non? Parce qu'elle est en train de suivre, de nouveau, elle lit la conversation, et puis que Liliana prend une initiative, elle s'écarte du scénario. Donc Sandra lui dit non, c'est pas comme ça, t'as sauté une ligne en gros. Et puis la prof soutient Liliana en disant non, mais elle peut dire son âge, puisque finalement il s'agit de faire une conversation, comme si c'était une conversation naturelle, eh bien on peut dire son âge, on peut intervertir le scénario. Donc ils reprennent, ich heiße Sandra, la prof corrige donc, wie alt du, donc, la formule canonique c'est wie alt bist du, elle répond, Sandra qui a bien compris, ich bin 13, donc j'ai 13 ans, et toi, Liliana répond, ich bin 12, et Sandra continue, wo wohnst du, où c'est que tu habites? De nouveau, toujours ce « is wohn » in la chaude fond. Sandra dit « ich auch ». La maîtresse félicite, elle ratifie « ich auch ». Man könnte noch sagen, on peut encore dire « Sandra, ich auch » und du sagst « woher » et puis tu dis, donc elle aimerait vraiment qu'elle continue de faire semblant de faire cette conversation, « woher kommst du », c'est-à-dire « d'où viens-tu ». Et Sandra demande à sa copine « woher kommst du ». Liliana est un peu perdue. La prof en allemand, woher kommst du? Das ist nicht geschrieben, c'est pas écrit. Sandra passe au portugais. Dis, parle, qu'elle dit à sa copine. Parle, vas-y, réponds. La maîtresse repose la question. Woher kommst du, Liliana? Elle comprend toujours pas très bien et elle dit in la chaude fond. Et là, toute la classe, derrière Sandra, dit non! Pourquoi? Elle a répondu à la question d'où viens-tu? Elle a dit je viens de la chaude fond, c'est pas possible, elle peut pas dire ça, elle vient du Portugal. Hein? Donc tout d'un coup, au détour d'une activité qui est quand même assez, typique, traditionnelle, déconnectée, enfin où on joue la fiction, tout d'un coup, voilà que la réalité revient terriblement. Tu peux pas dire que tu viens de la chaude fond, tu viens du Portugal. Hein? Donc, de la part de Sandra, il y a presque un peu un appel à la loyauté de sa copine. Tu ne vas quand même pas dire que tu viens de la chaude fond, tu viens du Portugal. Et puis, pour bien lui montrer en fait qu'elle doit dire ça, elle lui traduit en portugais la réponse. Enfin, qu'est-ce que ça signifie? Je commets aus Portugal. Donc, on voit qu'au moment où la réalité revient, eh bien, ça coïncide avec l'entrée en scène du portugais. Hein, le portugais qui n'est pas du tout interdit dans la classe, hein, peut-être même au contraire. Donc Liliana, une fois qu'elle a compris le sens, qu'elle a compris ce qu'on lui demandait, elle peut dire en allemand « aus Portugal ». La prof peut ratifier « ich komme aus Portugal ». Et puis il y a un autre élève qui essaye de continuer la conversation, parce que alors, lui il est bien dedans « ich komme aus », maintenant c'est terminé. Voilà. La prof la met la barre, hein, la séquence où elle interrogeait Liliana et Sandra, c'est terminé. Donc elle redonne la parole à Sandra. Et toi, Sandra, d'où tu viens? Sous-entendu, d'où tu viens? Ich auch, moi aussi, ich auch, etc. Donc on voit dans cette séquence, c'est pour ça que je l'ai choisi. C'est tellement paradoxal. On a d'une part une prof qui veut vraiment essayer de rendre sa leçon plus communicative en adaptant le Gespräch à la fiction de la classe, mais on joue un peu un rôle, mais au moins on est les vrais personnages, Liliana et Sandra. Puis au moment où il y a un élève qui se prend au jeu et qui a envie de dire « moi aussi je viens de », etc., et qu'on s'imagine que tous dans la classe vont dire « je viens d'Éthiopie, je viens d'Albanie », etc., ah non, c'est terminé, on arrête la séquence parce que elle a été conçue comme ça par la prof. Donc je trouve que c'est assez intéressant de voir ces différences de rythme. Au moment où ça allait partir, ben non, c'est fini. Donc ce qui me paraît aussi très intéressant dans cette situation là c'est que la langue objet d'enseignement, c'est l'allemand, mais la langue qui sert à toute la régulation dans la classe, c'est le français. Donc ça veut dire que En termes de régime langagier, si on peut dire, il n'y a pas le même régime dans cette classe d'allemand que dans la classe de français. Et dans la classe d'allemand, le français qu'on utilise, il est beaucoup moins susceptible d'être corrigé. Comme c'est pas la langue, c'est pas la discipline qui compte à ce moment-là, que le français est juste la langue qui permet la régulation des échanges au sein de la classe, bien finalement, la pression normative sur les formes est beaucoup moins forte. Donc, d'une certaine manière, pour ces élèves, apprendre l'allemand, ça leur permet en même temps de beaucoup plus mobiliser le français dans des activités où ils sont moins soumis à l'hétérocorrection et à la pression normative de la leçon de français officielle. Et puis l'extrait 5, alors ça montre encore mieux à quel point le régime est différent dans cette classe d'allemand. Donc on est toujours dans la même leçon. Et à un moment donné, il y a un problème avec l'enregistreur, qui est encore un enregistreur à cassette à l'époque. C'est un enregistreur qui se met en marche seulement quand il y a du bruit et qui s'arrête sitôt qu'il n'y a plus rien. Donc les élèves croient qu'il ne marche pas. Et on est dans toujours dans cette activité principale de « Wie alt bist du ? Wo wohnst du ? Woher kommst du ? » etc. Et la prof demande cette fois à un Kanner, wie alt bist du ? Il répond « 17, 17 ». La prof ratifie, on a toujours cet échange ternaire hein, typique de la classe, Zipsen, puis là on commence à entendre des rires. On entend une onomatopée, et je sais qu'ils essayent en fait de faire démarrer l'ordinateur. La prof fait comme si elle n'avait rien entendu, continue, also, on comprend qu'elle a dû poser la question, est-ce que tu as une sœur, etc. Donc, une Schwester, une sœur, hein, wie alt ist sie? Quel âge elle a? Un élève répond, sie ist 10 Jahre, 10 ans. La prof ratifie, 10 Jahre, alt gut, etc. Il y a de plus en plus de bruit. Et puis Sandra interpelle Mustapha, pourquoi tu rigoles? Et Mustapha dit, je rigole ici, hein, c'est pas. Sandra est fâchée, ah ben ouais, mais pas quand je parle, tu rigoles pas quand je parle. Donc de nouveau, une bonne estime d'elle-même et elle n'hésite pas à défendre sa place de locutrice. Et puis là, la prof se dit quand même que cette espèce d'activité parallèle qui est en train de se développer là, il faut quand même qu'elle agisse. Et elle lui dit très didactiquement, non, c'est pas très poli, Mustapha, ce que tu fais là, de rire fort comme ça, c'est pas très poli, parce qu'on est à l'école. Et Mustapha a cette phrase typique d'une variété de base. Madame, ça arrête et je fais pchit, comme ça, pas marché pour ça rigoler moi. Typique variété de base telle qu'elle est décrite par misère. Clive perdu, voilà. Dans les travaux sur la Fondation européenne pour la science, donc ces premières structures qui sont mises en place dans une langue étrangère, en gros, pour faire très simple et pour utiliser une expression qui est pas du tout politiquement correcte, c'est parler petit nègre. Hein. On est tous capables de parler, de revenir à cette manière de parler où on ne fléchit pas les verbes, où on met pas de déterminant dans les groupes nominaux et pouvoir parler comme ça, pouvoir dire beaucoup, même si pas conjuguer verbe. Donc il y a cette forme typique d'une variété de base et on voit que cette forme ne s'attire absolument aucun commentaire. Elle passe très très bien. Donc il n'y a aucun feedback, ni positif, ni négatif, donc ça veut dire que ça passe. Ben, je pense que, de nouveau, c'est le cas c'est parce qu'on est dans une leçon d'allemand, et puis qu'il y a ce problème qui ne fait pas tellement partie de l'activité principale en cours, qu'on peut tout d'un coup avoir un énoncé dont les formes sont gravement déviantes du point de vue des formes usuelles, mais qui passe très très bien. Sans qu'il y ait de réaction négative de la part de l'entourage. Donc, de nouveau, c'est plutôt quelque chose que je considère comme favorable à l'acquisition. Un lieu où on n'est pas sous la pression normative de l'environnement. Et extrait que je voulais voir, donc là, de toute façon, je n'avais pas le son, donc ça, très bien. Donc c'est un extrait en fait qui montre à quel point le français, donc tout en étant à la fois la langue de la socialisation, c'est-à-dire la langue qui est utilisée avec les copains, qui c'est pas seulement la langue de l'école, hein, on voit bien que la langue elle est aussi utilisée à l'extérieur, que c'est la langue dans laquelle se fait l'intercompréhension avec les indigènes, c'est-à-dire typiquement la professeure d'allemand ne parle pas le portugais, donc avec elle il faut bien parler français. Mais en même temps, le français se spécialise aussi comme langue des apprentissages, comme langue de la réflexion métalinguistique. Alors ce qui me fait dire ça, c'est ce tout petit exemple que vous avez, l'extrait 6, Alors là, c'est encore une situation différente. Il y a trois élèves ensemble. Il y a toujours Sandra et sa copine Liliana. Et il y a un troisième qui est un garçon, qui est lui galicien. Donc qui parle gallego. Le gallego, c'est un dialecte qui est vraiment entre l'espagnol et le portugais. Donc très souvent, en fait, quand il parle gallego, les portugais de la classe le comprennent. Mais tout d'un coup, il peut y avoir quand même des mots opaques comme ça et qui entraînent des malentendus. Enfin, pas des malentendus, mais tout d'un coup, il y a quelque chose qui résiste. Alors, ils sont les trois. Ils se dirigent au centre-ville pour mener une activité de micro-trottoir. Et pour synchroniser les enregistreurs, on a fait démarrer les enregistreurs au moment où ils sortaient de la cour du collège. Donc toute la conversation qu'ils ont entre le collège et le moment où ils vont faire les entretiens dans la rue, eh bien, on a ce moment qui a été transcrit où là, évidemment, ils parlent plutôt portugais et gallego, en se comprenant plus ou moins. Et pas du tout français. Mais là, tout d'un coup, il y a un événement qui va faire apparaître le français. Alors, c'est quoi cet événement ? Sandra, à la première ligne, dit qu'elle ne comprend pas très bien ce que dit Juan. Donc, bon, voilà. Le aguata frita, je ne sais pas de quoi il cause. Mais Juan a compris que Sandra disait qu'elle ne comprenait pas ce qu'il disait. Donc, il répète. Digo que voy al foro. Je dis que je vais au forum, que je connais le camarero. Donc le forum, c'est un bistrot. Et là, brouhaha. Et on voit très bien que ce mot camarero intrigue tout le monde, ça passe pas. Bon, camarero, c'est le serveur en espagnol, mais on dit pas comme ça en portugais. Donc en fait, voilà, il y a opacité du mot. Et Sandra, très vite, elle va proposer un équivalent, camarada, qui phonétiquement est assez éloigné de camarero. Mais syntaxiquement, c'est une hypothèse très correcte, puisqu'il y a conosco avant. S'il y a conosco, ça peut être forcément un objet animé derrière. Donc, pourquoi pas camarada. Donc, il y a une hypothèse syntaxique qui est verbalisée, mais qu'elle verbalise en espagnolo-portugais, en tout cas pas en français. C'est une forme, camarada, qui est, je ne sais pas si c'est du portugais, mais en tout cas, ce n'est pas du français. Juan redit camarero, non, c'est pas camarada. Et il met ce camarero en avant, hein, au camarero, conosco. Sandra répète cette forme, toujours très bizarre, camarero. Et là, il y a Liliana qui est aussi, elle maintenant focalise son attention sur cette forme, et elle, ce qu'elle va faire, elle va proposer une forme qui est phonétiquement très semblable de camarero, qui est amarelo. Camarero, amarelo, ça se ressemble vraiment. Mais syntaxiquement, alors là, franchement, et même sémantiquement, rien à voir. Hein, ça veut dire jaune. C'est un adjectif. Bon, donc, on voit que Liliana est beaucoup plus sur une hypothèse. Ça ressemble à quoi ? Alors que Sandra a déjà une hypothèse qui est plus liée, en fait, au sens, par les restrictions syntaxiques qui peuvent apparaître derrière le verbe connaître. Et puis là, c'est quelques tours de parole, mais ça prend quelques secondes. Hein. Là, je le raconte à grosse échelle, mais c'est très très court. Il y a ces répétitions de camarero, amarelo, camarada. Juan remet, Sabes, il a compris que c'est ça qui pose problème. Et il dit, tu sais ce que c'est le camarero ? Sandra redit la forme qui a été proposée par Liliana. Donc on a comme le paradigme, le choix entre ces trois formes. Et là, elle passe au français. D'abord en traduisant amarelo et en disant ah j'ai compris c'est pas puis elle valide son hypothèse en disant ah, c'est camarade hein. Donc elle reste complètement sur son idée camarero c'est camarade. Donc ils n'ont pas compris que camarero qui voulait parler du serveur, elle a fait une approximation, mais tout ce travail métalinguistique de comparaison des formes, de recherche en fait d'un sens pour cette forme opaque, moi je fais l'hypothèse que c'est ça qui fait émerger le français. Non seulement parce que c'est la langue, on peut même pas dire non seulement parce que c'est la langue commune, parce que Juan, il est au tout début, il parle quasiment pas le français. Donc on peut pas dire que le français, c'est une langue entre les trois. Je pense que vraiment, à ce moment-là, seul le français permet de sortir de cette impasse de camarero, amarelo, camarada, et donc finalement, est stimulée, enclenchée par cette réflexion métalinguistique autour de cette, cet obstacle lexical. Donc voilà, je pense que toutes ces séquences, elles donnent beaucoup d'indications sur à la fois ce qui se joue en termes de socialisation, en termes d'identité, mais aussi la spécialisation finalement du français comme langue des apprentissages, comme langue des réflexions méta. Donc, qui a un enjeu cognitif. Et si je souligne ça, c'est parce que souvent quand j'entends parler du français de scolarisation, j'ai souvent l'impression qu'on parle surtout de comportement, qu'on parle surtout de les élèves devraient comprendre comment on s'adresse à la maîtresse, comment on doit adapter sa manière de parler à un contexte formel comme l'école. Et qu'en fait, je pense que dans les dimensions d'apprentissage, tout ce qui est cognitif est quelque chose qui échappe à cette idée de français de scolarisation. Parce que le développement cognitif, il peut très bien se passer entre toutes les langues du répertoire des élèves. Donc, nul besoin de restreindre le répertoire langagier au français de scolarisation pour pouvoir faire que les élèves développent des savoirs à l'école française. Je pense même au contraire que ça peut être contre-productif. Donc les savoirs peuvent très très bien s'élaborer dans les différentes langues du répertoire. Si le prof parle d'autres langues, très bien, mais avec les autres élèves dans la classe, ça fonctionne aussi très bien de pouvoir utiliser en fait ses compétences linguistiques. Comme on voit, hein, Sandra, qui quand sa copine est complètement paumée en allemand, passe au portugais pour lui expliquer ce qui se passe. Ben, toutes ces choses-là, en fait, contribuent à la tâche cognitive, à l'activité cognitive que les élèves sont en train de mener. Donc voilà, c'est un peu un plaidoyer pour ce qu'on appelle avec Ophélia Garcia, je ne connais pas spécialement Ophélia Garcia, mais c'est elle qui parle de translanguaging, donc c'est-à-dire de construire des savoirs simultanément dans plusieurs langues, en se disant que c'est seulement à terme que les élèves seront capables de faire dans une seule langue ce qu'ils ont appris à faire en plusieurs, plutôt que de se dire, comme souvent j'ai l'impression que c'est le cas avec le français de scolarisation, il faut d'abord maîtriser le français de l'école pour pouvoir maîtriser les savoirs de l'école. Ben, je pense qu'en faisant ça, on enlève en fait toute une partie des ressources des élèves. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, en tant que formateur de formateurs, parce qu'on peut très bien soutenir l'argument inverse, hein, en disant que pour que les enfants soient les apprenants soient le plus vite possible autonomes, même si c'est très pénible pour eux, il faut les forcer à tout faire en français. Parce que c'est un mauvais moment à passer, mais après, finalement, ils seront beaucoup plus autonomes. Et voilà, c'est leur rendre service que de les obliger à ne faire les choses qu'en français. Voilà, les deux je dirais que c'est deux idéologies différentes, hein. Voilà. Donc la discussion est ouverte.